Le Rouge et le Noir, chapitre 49. L'opéra bouffe. Occupée de l'avenir et du rôle singulier qu'elle espérait, Mathilde en vint bientôt jusqu'à regretter les discussions sèches et métaphysiques qu'elle avait souvent avec Julien. Fatiguée de si hautes pensées, quelquefois aussi elle regrettait les moments de bonheur qu'elle avait trouvés auprès de lui. Ces derniers souvenirs ne paraissaient point sans remords, elle en était accablée dans de certains moments. « Mais si l'on a une faiblesse, se disait-elle, il est digne d'une fille telle que moi de n'oublier ses devoirs que pour un homme de mérite. On ne dira point que ce sont ses jolies moustaches ni sa grâce à monter à cheval qui m'ont séduite, mais ses profondes discussions sur l'avenir qui attend la France, ses idées sur la ressemblance que les événements qui vont fondre sur nous peuvent avoir avec la révolution de 1688 en Angleterre. « J'ai été séduite, répondait-elle à ses remords. Je suis une faible femme, mais du moins je n'ai pas été égarée comme une poupée par les avantages extérieurs. S'il y a une révolution, pourquoi Julien Sorel ne jouerait-il pas le rôle de Roland et moi celui de Madame Roland? J'aime mieux ce rôle que celui de Madame de Staël. L'immoralité de la conduite sera un obstacle dans notre siècle. Certainement, on ne me reprochera pas une seconde faiblesse. J'en mourrai de honte. » Les rêveries de Mathilde n'étaient pas toutes aussi graves, il faut l'avouer, que les pensées que nous venons de transcrire. Elle regardait Julien, elle trouvait une grâce charmante à ses moindres actions. « Sans doute, se disait-elle, je suis parvenue à détruire chez lui jusqu'à la plus petite idée qu'il a des droits. » L'air de malheur et de passion profonde avec lequel le pauvre garçon m'a dit ce mot d'amour il y a 8 jours le prouve de reste. Il faut convenir que j'ai été bien extraordinaire de me fâcher d'un mot où brillait tant de respect, tant de passion. Ne suis-je pas sa femme? Son mot était naturel, et il faut l'avouer, il était bien aimable. Julien m'aimait encore après des conversations éternelles dans lesquelles je ne lui avais parlé, et avec bien de la cruauté, j'en conviens, que des velléités d'amour, que l'ennui de la vie que je mène m'avait inspiré pour ces jeunes gens de la société desquels il est si jaloux. Ah, s'ils savaient combien ils sont peu dangereux pour moi, combien auprès de lui ils me semblent étiolés et tous copient les uns les autres. En faisant ces réflexions, Mathilde traçait au hasard des traits de crayon sur une feuille de son album. Un des profils qu'elle venait d'achever l'étonna, la ravit. Il ressemblait à Julien d'une manière frappante. « C'est la voix du ciel! Voilà un des miracles de l'amour !» s'écria-t-elle avec transport. « Sans m'en douter, je fais son portrait !» Elle s'enfuit dans sa chambre, s'y enferma, s'appliqua beaucoup, chercha sérieusement à faire le portrait de Julien, mais elle ne put réussir. Le profil tracé au hasard se trouva toujours le plus ressemblant. Mathilde en fut enchantée. Elle y vit une preuve évidente de grande passion. Elle ne quitta son album que fort tard, quand la marquise la fit appeler pour aller à l'opéra italien. Elle n'eut qu'une idée. Chercher Julien des yeux pour le faire engager par sa mère à les accompagner. Il ne parut point. Ces dames n'eurent que des êtres vulgaires dans leur loge. Pendant tout le premier acte de l'opéra, Mathilde rêva à l'homme qu'elle aimait avec les transports de la passion la plus vive. Mais au second acte, une maxime d'amour chantée, il faut l'avouer, sur une mélodie digne de Cimarosa, pénétra son cœur. L'héroïne de l'opéra disait « Il faut me punir de l'excès d'adoration que je sens pour lui. Je l'aime trop. » Du moment qu'elle eut entendu cette cantilène sublime, tout ce qui existait au monde disparut pour Mathilde. On lui parlait, elle ne répondait pas. Sa mère la grondait, à peine pouvait-elle prendre sur elle de la regarder. Son extase arriva à un état d'exaltation et de passion comparable aux mouvements les plus violents que depuis quelques jours Julien avait éprouvés pour elle. La cantilène, pleine d'une grâce divine sur laquelle était chantée la maxime qui lui semblait faire une application si frappante à sa position, occupait tous les instants où elle ne songeait pas directement à Julien. Grâce à son amour pour la musique, elle fut ce soir-là comme Madame de Rênal était toujours en pensant à Julien. L'amour de tête a plus d'esprit sans doute que l'amour vrai, mais il n'a que des instants d'enthousiasme. Il se connaît trop, il se juge sans cesse. Loin d'égarer la pensée, il n'est bâti qu'à force de penser. De retour à la maison, quoi que pût dire Madame de La Mole, Mathilde prétendit avoir la fièvre et passa une partie de la nuit à répéter cette cantilène sur son piano. Elle chantait les paroles de l'air célèbre qui l'avait charmée. « Devo punirmi, devo punirmi, c'est trop amai », etc. Le résultat de cette nuit de folie fut qu'elle crut être parvenue à triompher de son amour. Cette page nuira de plus d'une façon au malheureux auteur. Les âmes glacées l'accuseront d'indécence. Il ne fait point l'injure aux jeunes personnes qui brillent dans les salons de Paris de supposer qu'une seule d'entre elles soit susceptible des mouvements de folie qui dégradent le caractère de Mathilde. Ce personnage est tout à fait d'imagination, et même imaginé bien en dehors des habitudes sociales qui, parmi tous les siècles, assureront un rang si distingué à la civilisation du XIXe siècle. Ce n'est point la prudence qui manque aux jeunes filles qui ont fait l'ornement des bals de cet hiver. Je ne pense pas non plus que l'on puisse les accuser de trop mépriser une brillante fortune, des chevaux, de belles terres et tout ce qui assure une position agréable dans le monde. Loin de ne voir que de l'ennui dans tous ces avantages, ils sont en général l'objet des désirs les plus constants. Et s'il y a passion dans les cœurs, elle est pour eux. Ce n'est point l'amour non plus qui se charge de la fortune des jeunes gens doués de quelques talents comme Julien. Il s'attache d'une étreinte invincible à une coterie, et quand la coterie fait fortune, toutes les bonnes choses de la société pleuvent sur eux. Malheur à l'homme d'étude qui n'est d'aucune coterie, on lui reprochera jusqu'à de petits succès fort incertains, et la haute vertu triomphera en le volant. Eh, monsieur, un roman est un miroir qui se promène sur une grande route. Tantôt il reflète à vos yeux l'azur des cieux, tantôt la fange des bourbiers de la route. Et l'homme qui porte le miroir dans sa hotte sera par vous accusé d'être immoral. Son miroir montre la fange et vous accusez le miroir. Accusez bien plutôt le grand chemin où est le bourbier, et plus encore l'inspecteur des routes qui laisse l'eau croupir et le bourbier se former. Maintenant qu'il est bien convenu que le caractère de Mathilde est impossible dans notre siècle, non moins prudent que vertueux, je crains moins d'irriter en continuant le récit des folies de cette aimable fille. Pendant toute la journée du lendemain, elle épia les occasions de s'assurer de son triomphe sur sa folle passion. Son grand but fut de déplaire en tout à Julien. Mais aucun de ses mouvements ne lui échappa. Julien était trop malheureux et surtout trop agité pour deviner une manœuvre de passion aussi compliquée. Encore moins put-il voir tout ce qu'elle avait de favorable pour lui. Et il en fut la victime. Jamais, peut-être, son malheur n'avait été aussi excessif. Ses actions étaient tellement peu sous la direction de son esprit que si quelque philosophe chagrin lui eût dit « Songez à profiter rapidement des dispositions qui vont vous être favorables. Dans ce genre d'amour de tête que l'on voit à Paris, la même manière d'être ne peut durer plus de 2 jours. » Il ne l'eût pas compris. Mais quelque exalté qu'il fût, Julien avait de l'honneur. Son premier devoir était la discrétion. Il le comprit. Demander conseil, raconter son supplice au premier venu, eût été un bonheur comparable à celui du malheureux qui, traversant un désert enflammé, reçoit du ciel une goutte d'eau glacée. Il connut le péril, il craignit de répondre par un torrent de larmes à l'indiscret qui l'interrogerait. Il s'enferma chez lui. Il vit Mathilde se promener longtemps au jardin. Quand enfin elle l'eut quitté, il y descendit. Il s'approcha d'un rosier où elle avait pris une fleur. La nuit était sombre, il put se livrer à tout son malheur sans craindre d'être vu. Il était évident pour lui que Mademoiselle de La Mole aimait un de ces jeunes officiers avec qui elle venait de parler si gaiement. Elle l'avait aimé, lui, mais elle avait connu son peu de mérite. « Et en effet, j'en ai bien peu », se disait Julien avec pleine conviction. « Je suis au total un être bien plat, bien vulgaire, bien ennuyeux pour les autres, bien insupportable à moi-même. » Il était mortellement dégoûté de toutes ses bonnes qualités, de toutes les choses qu'il avait aimées avec enthousiasme. Et dans cet état d'imagination renversée, il entreprenait de juger la vie avec son imagination. Cette erreur est d'un homme supérieur. Plusieurs fois, l'idée du suicide s'offrit à lui. Cette image était pleine de charme, c'était comme un repos délicieux. C'était le verre d'eau glacée offert aux misérables qui, dans le désert, meurent de soif et de chaleur. « Ma mort augmentera le mépris qu'elle a pour moi » s'écria-t-il. « Quel souvenir je laisserai !» Tombé dans ce dernier abîme du malheur, un être humain n'a de ressources que le courage. Julien n'eut pas assez de génie pour se dire « il faut oser ». Mais comme il regardait la fenêtre de la chambre de Mathilde, il vit à travers les persiennes qu'elle éteignait sa lumière. Il se figurait cette chambre charmante qu'il avait vue, hélas, une fois en sa vie. Son imagination n'allait pas plus loin. Une heure sonna. Entendre le son de la cloche et se dire « je vais monter avec l'échelle » ne fut qu'un instant. Ce fut l'éclair du génie. Les bonnes raisons arrivèrent en foule. « Puis-je être plus malheureux ?» se disait-il. Il courut à l'échelle. Le jardinier l'avait enchaîné. À l'aide du chien d'un de ses pistolets, qu'il brisa, Julien, animé dans ce moment d'une force surhumaine, tordit un des chaînons de la chaîne qui retenait l'échelle. Il en fut maître en peu de minutes et la plaça contre la fenêtre de Mathilde. « Elle va se fâcher !» m'accablé de mépris, qu'importe, je lui donne un baiser, un dernier baiser, je monte chez moi et je me tue. Mes lèvres toucheront sa joue avant que de mourir. Il volait en montant l'échelle. Il frappa la persienne. Après quelques instants, Mathilde l'entend. Elle veut ouvrir la persienne, l'échelle s'y oppose. Julien se cramponne au crochet de fer destiné à tenir la persienne ouverte, et au risque de se précipiter mille fois, donne une violente secousse à l'échelle et la déplace un peu. Mathilde peut ouvrir la persienne. Il se jette dans la chambre plus mort que vif. « C'est donc toi !» dit-elle en se précipitant dans ses bras. Qui pourra décrire l'excès du bonheur de Julien ? Celui de Mathilde fut presque égal. Elle lui parlait contre elle-même, elle se dénonçait à lui. « Punis-moi de mon orgueil atroce !» lui disait-elle en le serrant dans ses bras de façon à l'étouffer. « Tu es mon maître, je suis ton esclave. Il faut que je te demande pardon à genoux d'avoir voulu me révolter. » Elle quittait ses bras pour tomber à ses pieds. « Oui, tu es mon maître !» lui disait-elle encore, ivre de bonheur et d'amour. « Règne à jamais sur moi !» « Punis sévèrement ton esclave quand elle voudra se révolter. » Dans un autre moment, elle s'arrache de ses bras, allume la bougie, et Julien a toutes les peines du monde à l'empêcher de se couper tout un côté de ses cheveux. « Je veux me rappeler, lui dit-elle, que je suis ta servante. Si jamais un exécrable orgueil vient m'égarer, montre-moi ses cheveux et dis « Il n'est plus question d'amour, il ne s'agit pas de l'émotion que votre âme peut éprouver en ce moment. Vous avez juré d'obéir. Obéissez sur l'honneur. » Mais il est plus sage de supprimer la description d'un tel degré d'égarement et de félicité. La vertu de Julien fut égale à son bonheur. « Il faut que je descende par l'échelle, » dit-il à Mathilde quand il vit l'aube du jour paraître sur les cheminées lointaines du côté de l'Orient, au-delà des jardins. « Le sacrifice que je m'impose est digne de vous. Je me prive de quelques heures du plus étonnant bonheur qu'une âme humaine puisse goûter. C'est un sacrifice que je fais à votre réputation. Si vous connaissez mon cœur, vous comprenez la violence que je me fais. Serez-vous toujours pour moi ce que vous êtes en ce moment ? Mais l'honneur parle, il suffit. Apprenez que, lors de notre première entrevue, tous les soupçons n'ont pas été dirigés contre les voleurs. Monsieur de La Mole a fait établir une garde dans le jardin. Monsieur de Croisenois est environné d'espions. On sait ce qu'il fait chaque nuit. » À cette idée, Mathilde rit aux éclats. Sa mère et une femme de service furent éveillées. Tout à coup, on lui adressa la parole à travers la porte. Julien la regarda. Elle pâlit en grondant la femme de chambre et ne daigna pas adresser la parole à sa mère. « Mais si elles ont l'idée d'ouvrir la fenêtre, elles voient l'échelle ?» lui dit Julien. Il la serra encore une fois dans ses bras, se jeta sur l'échelle et se laissa glisser plutôt qu'il ne descendit. En un moment, il fut à terre. 3 secondes après, l'échelle était sous l'allée de Tilleul et l'honneur de Mathilde sauvé. Julien, revenu à lui, se trouva tout en sang et presque nu. Il s'était blessé en se laissant glisser sans précaution. L'excès du bonheur lui avait rendu toute l'énergie de son caractère. 20 hommes se fussent présentés, que les attaquer seuls en cet instant n'eût été qu'un plaisir de plus. Heureusement, sa vertu militaire ne fut pas mise à l'épreuve. Il coucha l'échelle à sa place ordinaire, il replaça la chaîne qui la retenait, il n'oublia point de revenir effacer l'empreinte que l'échelle avait laissée dans la plate-bande de fleurs exotiques sous la fenêtre de Mathilde. Comme, dans l'obscurité, il promenait sa main sur la terre molle pour s'assurer que l'empreinte était entièrement effacée, il sentit tomber quelque chose sur ses mains. C'était tout un côté des cheveux de Mathilde qu'elle avait coupé et qu'elle lui jetait. Elle était à sa fenêtre. « Voilà ce que t'envoie ta servante !» lui dit-elle assez haut. « C'est le signe d'une obéissance éternelle. Je renonce à l'exercice de ma raison. Sois mon maître !» Julien, vaincu, fut sur le point d'aller reprendre l'échelle et de remonter chez elle. Enfin, la raison fut la plus forte. Rentrer du jardin dans l'hôtel n'était pas chose facile. Il réussit à forcer la porte d'une cave. Parvenu dans la maison, il fut obligé d'enfoncer, le plus silencieusement possible, la porte de sa chambre. Dans son trouble, il avait laissé, dans la petite chambre qu'il venait d'abandonner si rapidement, jusqu'à la clé qui était dans la poche de son habit. « Pourvu, » pensa-t-il, « qu'elle songe à cacher toute cette dépouille mortelle !» Enfin, la fatigue l'emporta sur le bonheur, et comme le soleil se levait, il tomba dans un profond sommeil. La cloche du déjeuner eut grand-peine à l'éveiller. Il parut à la salle à manger. Bientôt après, Mathilde y entra. L'orgueil de Julien eut un moment bien heureux, en voyant l'amour qui éclatait dans les yeux de cette personne si belle et environnée de tant d'hommages. Mais bientôt sa prudence eut lieu d'être effrayée. Sous prétexte du peu de temps qu'elle avait eu pour soigner sa coiffure, Mathilde avait arrangé ses cheveux de façon que Julien pût apercevoir, du premier coup d'œil, toute l'étendue du sacrifice qu'elle avait fait pour lui en les coupant la nuit précédente. Si une aussi belle figure avait pu être gâtée par quelque chose, Mathilde y serait parvenue. Tout un côté de ses beaux cheveux, d'un blond cendré, était coupé à 1/2 pouce de la tête. À déjeuner, toute la manière d'être de Mathilde répondit à cette première imprudence. On eût dit qu'elle prenait à tâche de faire savoir à tout le monde la folle passion qu'elle avait pour Julien. Heureusement, ce jour-là, M. de la Mole et la marquise étaient fort occupés d'une promotion de cordon bleu qui allait avoir lieu et dans laquelle M. de Chaulnes n'était pas compris. Vers la fin du repas, il arriva à Mathilde, qui parlait à Julien, de l'appeler « mon maître ». Il rougit jusqu'au blanc des yeux. Soit hasard ou fait exprès de la part de Mademoiselle de la Mole, Mathilde ne fut pas un instant seule ce jour-là. Le soir, en passant de la salle à manger au salon, elle trouva pourtant le moment de dire à Julien « Croirez-vous que ce soit un prétexte de ma part ? Maman vient de décider qu'une de ses femmes s'établira la nuit dans mon appartement. » Cette journée passa comme un éclair. Julien était au comble du bonheur. Dès 7 heures du matin, le lendemain, il était installé dans la bibliothèque. Il espérait que Mademoiselle de la Mole daignerait y paraître. Il lui avait écrit une lettre infinie. Il ne la vit que bien des heures après, au déjeuner. Elle était ce jour-là coiffée avec le plus grand soin. Un art merveilleux s'était chargé de cacher la place des cheveux coupés. Elle regarda une ou deux fois Julien, mais avec des yeux polis et calmes. Il n'était plus question de l'appeler « mon maître ». L'étonnement de Julien l'empêchait de respirer. Mathilde se reprochait presque tout ce qu'elle avait fait pour lui. En y pensant mûrement, elle avait décidé que c'était un être, si ce n'est tout à fait commun, du moins ne sortant pas assez de la ligne pour mériter toutes les étranges folies qu'elle avait osées pour lui. Au total, elle ne songeait guère à l'amour. Ce jour-là, elle était lasse d'aimer. Pour Julien, les mouvements de son cœur furent ceux d'un enfant de 16 ans. Le doute affreux, l'étonnement, le désespoir l'occupèrent tour à tour pendant ce déjeuner qui lui sembla d'une éternelle durée. Dès qu'il put décemment se lever de table, il se précipita, plutôt qu'il ne courut, à l'écurie, sella lui-même son cheval et partit au galop. Il craignait de se déshonorer par quelque faiblesse. « Il faut que je tue mon cœur à force de fatigue physique », se disait-il en galopant dans les bois de Meudon. « Qu'ai-je fait ? Qu'ai-je dit pour mériter une telle disgrâce ? Il faut ne rien faire, ne rien dire aujourd'hui », pensa-t-il en rentrant à l'hôtel. « Être mort au physique comme je le suis au moral. » Julien ne vit plus, c'est son cadavre qui s'agite encore. Chapitre 50. Le vase du Japon. Son cœur ne comprend pas d'abord tout l'excès de son malheur. Il est plus troublé qu'ému. Mais à mesure que la raison revient, il sent la profondeur de son infortune. Tous les plaisirs de la vie se trouvent anéantis pour lui. Il ne peut sentir que les vives pointes du désespoir qui le déchirent. Mais à quoi bon parler de douleur physique ? Quelle douleur sentie par le corps seulement est comparable à celle-ci ? Jean-Paul. On sonnait le dîner. Julien n'eut que le temps de s'habiller. Il trouva au salon Mathilde, qui faisait des instances à son frère et à M. de Croisenois pour les engager à ne pas aller passer la soirée à Suresnes, chez Madame la maréchale de Fervaques. Il eût été difficile d'être plus séduisante et plus aimable pour eux. Après dîner, parurent messieurs Deluz, de Quéluz et plusieurs de leurs amis. On eût dit que Mademoiselle de la Mole avait repris, avec le culte de l'amitié fraternelle, celui des convenances les plus exactes. Quoique le temps fût charmant ce soir-là, elle insista pour ne pas aller au jardin. Elle voulut que l'on ne s'éloignât pas de la bergère où Madame de la Mole était placée. Le canapé bleu fut le centre du groupe, comme en hiver. Mathilde avait de l'humeur contre le jardin, ou du moins il lui semblait parfaitement ennuyeux. Il était lié au souvenir de Julien. Le malheur diminue l'esprit. Notre héros eut la gaucherie de s'arrêter auprès de cette petite chaise de paille qui jadis avait été témoin de triomphes si brillants. Aujourd'hui, personne ne lui adressa la parole. Sa présence était comme inaperçue, et pire encore. Ceux des amis de Mademoiselle de la Mole, qui étaient placés près de lui à l'extrémité du canapé, affectaient en quelque sorte de lui tourner le dos. Du moins, il en eut l'idée. « C'est une disgrâce de cour, » pensa-t-il. Il voulut étudier un instant les gens qui prétendaient l'accabler de leur dédain. L'oncle de Monsieur de Luz avait une grande charge auprès du roi, d'où il résultait que ce bel officier plaçait au commencement de sa conversation, avec chaque interlocuteur qui survenait, cette particularité piquante. Son oncle s'était mis en route à 7 heures pour Saint-Cloud, et le soir il comptait y coucher. Ce détail était amené avec toute l'apparence de la bonhomie, mais toujours il arrivait. En observant Monsieur de Croisenois, avec l'œil sévère du malheur, Julien remarqua l'extrême influence que cet aimable et bon jeune homme supposait aux causes occultes. C'était au point qu'il s'attristait et prenait de l'humeur s'il voyait attribuer un événement un peu important à une cause simple et toute naturelle. « Il y a là un peu de folie, » se dit Julien. « Ce caractère a un rapport frappant avec celui de l'empereur Alexandre, tel que me l'a décrit le prince Korasov. » Durant la première année de son séjour à Paris, le pauvre Julien, sortant du séminaire, ébloui par les grâces pour lui si nouvelles de tous ces aimables jeunes gens, n'avait pu que les admirer. Leur véritable caractère commençait seulement à se dessiner à ses yeux. « Je joue ici un rôle indigne, » pensa-t-il tout à coup. Il s'agissait de quitter sa petite chaise de paille d'une façon qui ne fût pas trop gauche. Il voulut inventer. Il demandait quelque chose de nouveau à une imagination tout occupée ailleurs. Il fallait avoir recours à la mémoire. La sienne était, il faut l'avouer, peu riche en ressources de ce genre. Le pauvre garçon avait encore bien peu d'usage. Aussi fut-il d'une gaucherie parfaite et remarqué de tous lorsqu'il se leva pour quitter le salon. Le malheur était trop évident dans toute sa manière d'être. Il jouait depuis 3 quarts d'heure le rôle d'un important subalterne auquel on ne se donne pas la peine de cacher ce qu'on pense de lui. Les observations critiques qu'il venait de faire sur ses rivaux l'empêchèrent toutefois de prendre son malheur trop au tragique. Il avait, pour soutenir sa fierté, le souvenir de ce qui s'était passé l'avant-veille. « Quels que soient leurs avantages sur moi, » pensait-il en entrant seul au jardin, « Mathilde n'a été pour aucun d'eux ce que 2 fois dans ma vie elle a daigné être pour moi. » Sa sagesse n'alla pas plus loin. Il ne comprenait nullement le caractère de la personne singulière que le hasard venait de rendre maîtresse absolue de tout son bonheur. Il s'en tint la journée suivante à tuer de fatigue lui et son cheval. Il n'essaya plus de s'approcher le soir du canapé bleu auquel Mathilde était fidèle. Il remarqua que le comte Norbert ne daignait pas même le regarder en le rencontrant dans la maison. « Il doit se faire une étrange violence, » pensa-t-il, « lui, naturellement si poli. » Pour Julien, le sommeil eût été le bonheur. En dépit de la fatigue physique, des souvenirs trop séduisants commençaient à envahir toute son imagination. Il n'eut pas le génie de voir que par ses grandes courses à cheval dans les bois des environs de Paris, n'agissant que sur lui-même et nullement sur le cœur ou sur l'esprit de Mathilde, il laissait au hasard la disposition de son sort. Il lui semblait qu'une chose apporterait à sa douleur un soulagement infini, ce serait de parler à Mathilde. Mais cependant, qu'oserait-il lui dire? C'est à quoi, un matin, à 7 heures, il rêvait profondément, lorsque tout à coup il la vit entrer dans la bibliothèque. « Je sais, monsieur, que vous désirez me parler. »«
Grand Dieu, qui vous l'a dit ?»«
Je le sais, que vous importe. » Si vous manquez d'honneur, vous pouvez me perdre ou du moins le tenter. Mais ce danger, que je ne crois pas réel, ne m'empêchera certainement pas d'être sincère. Je ne vous aime plus, monsieur. Mon imagination folle m'a trompé. » À ce coup terrible, éperdu d'amour et de malheur, Julien essaya de se justifier. Rien de plus absurde. Se justifie-t-on de déplaire? Mais la raison n'avait plus aucun empire sur ses actions. Un instinct aveugle le poussait à retarder la décision de son sort. Il lui semblait que tant qu'il parlait, tout n'était pas fini. Mathilde n'écoutait pas ses paroles. Leur son l'irritait. Elle ne concevait pas qu'il eût l'audace de l'interrompre. Les remords de la vertu et ceux de l'orgueil la rendaient ce matin-là également malheureuse. Elle était en quelque sorte anéantie par l'affreuse idée d'avoir donné des droits sur elle à un petit abbé, fils d'un paysan. « C'est à peu près, se disait-elle dans les moments où elle s'exagérait son malheur, comme si j'avais à me reprocher une faiblesse pour un des laquais. » Dans les caractères hardis et fiers, il n'y a qu'un pas de la colère contre soi-même à l'emportement contre les autres. Les transports de fureur sont dans ce cas un plaisir vif. En un instant, Mademoiselle de la Mole arriva au point d'accabler Julien des marques de mépris les plus excessives. Elle avait infiniment d'esprit, et cet esprit triomphait dans l'art de torturer les amours propres et de leur infliger des blessures cruelles. Pour la première fois de sa vie, Julien se trouvait soumis à l'action d'un esprit supérieur, animé contre lui de la haine la plus violente. Loin de songer le moins du monde à se défendre en cet instant, il en vint à se mépriser soi-même. En s'entendant accablé de marques de mépris si cruelles, et calculé avec tant d'esprit pour détruire toute bonne opinion qu'il pouvait avoir de soi, il lui semblait que Mathilde avait raison et qu'elle n'en disait pas assez. Pour elle, elle trouvait un plaisir d'orgueil délicieux à punir ainsi elle et lui de l'adoration qu'elle avait sentie quelques jours auparavant. Elle n'avait pas besoin d'inventer et de penser pour la première fois les choses cruelles qu'elle lui adressait avec tant de complaisance. Elle ne faisait que répéter ce que depuis 8 jours disait dans son cœur l'avocat du parti contraire à l'amour. Chaque mot centuplait l'affreux malheur de Julien. Il voulut fuir. Mademoiselle de la Mole le retint par le bras avec autorité. « Daignez remarquer, lui dit-il, que vous parlez très haut. On vous entendra de la pièce voisine. »« Qu'importe, reprit fièrement Mademoiselle de la Mole, qui osera dire qu'on m'entend? Je veux guérir à jamais votre petit amour-propre des idées qu'il a pu se figurer sur mon compte. » Lorsque Julien put sortir de la bibliothèque, il était tellement étonné qu'il en sentait moins son malheur. « Eh bien, elle ne m'aime plus !» se répétait-il en se parlant tout haut, comme pour s'apprendre sa position. « Il paraît qu'elle m'a aimé 8 ou 10 jours, et moi je l'aimerai toute la vie. » « Est-il bien possible? Elle n'était rien, rien pour mon cœur, il y a si peu de jours. » Les jouissances d'orgueil inondaient le cœur de Mathilde. Elle avait donc pu rompre à tout jamais. Triompher si complètement d'un penchant si puissant la rendrait parfaitement heureuse. Ainsi, ce petit monsieur comprendra, et une fois pour toutes, qu'il n'a et n'aura jamais aucun empire sur moi. Elle était si heureuse que réellement elle n'avait plus d'amour en ce moment. Après une scène aussi atroce, aussi humiliante, chez un être moins passionné que Julien, l'amour fut devenu impossible. Sans s'écarter un seul instant de ce qu'elle se devait à elle-même, Mademoiselle de la Mole lui avait adressé de ces choses désagréables, tellement bien calculées, qu'elles peuvent paraître une vérité, même quand on s'en souvient de sang-froid. La conclusion que Julien tira dans le premier moment d'une scène si étonnante fut que Mathilde avait un orgueil infini. Il croyait fermement que tout était fini à tout jamais entre eux. Et cependant, le lendemain, au déjeuner, il fut gauche et timide devant elle. C'était un défaut qu'on avait pu lui reprocher jusque-là. Dans les petites comme dans les grandes choses, il savait nettement ce qu'il devait et voulait faire, et l'exécutait. Ce jour-là, après le déjeuner, comme Madame de La Mole lui demandait une brochure séditieuse et pourtant assez rare, que le matin son curé lui avait apportée en secret, Julien, en la prenant sur une console, fit tomber un vieux vase de porcelaine bleue, laid au possible. Madame de La Mole se leva en jetant un cri de détresse et vint considérer de près les ruines de son vase chéri. « C'était du vieux Japon, disait-elle. Il me venait de ma grand-tante abbesse de Chelles. C'était un présent des Hollandais au duc d'Orléans, régent, qu'il avait donné à sa fille. » Mathilde avait suivi le mouvement de sa mère, ravie de voir briser ce vase bleu qui lui semblait horriblement laid. Julien était silencieux et point trop troublé. Il vit Mademoiselle de La Mole tout près de lui. « Ce vase, lui dit-il, est à jamais détruit. Ainsi en est-il d'un sentiment qui fut autrefois le maître de mon cœur. Je vous prie d'agréer mes excuses de toutes les folies qu'il m'a fait faire. » Et il sortit. « On dirait en vérité, dit Madame de La Mole comme il s'en allait, que ce monsieur Sorel est fier et content de ce qu'il vient de faire. » Ce mot tomba directement sur le cœur de Mathilde. « Il est vrai, se dit-elle, ma mère a deviné juste, tel est le sentiment qui l'anime. » Alors seulement cessa la joie de la scène qu'elle lui avait faite la veille. « Eh bien, tout est fini, se dit-elle avec un calme apparent. « Il me reste un grand exemple. » Cette erreur est affreuse, humiliante. Elle me vaudra la sagesse pour tout le reste de la vie. Que n'ai-je dit vrai, pensait Julien. Pourquoi l'amour que j'avais pour cette folle me tourmente-t-il encore? Cet amour, loin de s'éteindre comme il l'espérait, fit des progrès rapides. Elle est folle, il est vrai, se disait-il. En est-elle moins adorable? Est-il possible d'être plus jolie? Tout ce que la civilisation la plus élégante peut présenter de vifs plaisirs, n'était-il pas réuni comme à l'envi chez Mademoiselle de La Mole? Ses souvenirs de bonheur passé s'emparaient de Julien et détruisaient rapidement tout l'ouvrage de la raison. La raison lutte en vain contre les souvenirs de ce genre. Ses essais sévères ne font qu'en augmenter le charme. 24 heures après la rupture du vase de vieux Japon, Julien était décidément l'un des hommes les plus malheureux. Chapitre 51 La note secrète. Car tout ce que je raconte, je l'ai vu, et si j'ai pu me tromper en le voyant, bien certainement je ne vous trompe point en vous le disant. Lettre à l'auteur. Le marquis le fit appeler. Monsieur de La Mole semblait rajeuni, son œil était brillant. « Parlons un peu de votre mémoire, dit-il à Julien. On dit qu'elle est prodigieuse. Pourriez-vous apprendre par cœur 4 pages et aller les réciter à Londres, mais sans changer un mot ? » Le marquis chiffonnait avec humeur la quotidienne du jour et cherchait en vain à dissimuler un air fort sérieux et que Julien ne lui avait jamais vu, même lorsqu'il était question du procès filaire. Julien avait déjà assez d'usage pour sentir qu'il devait paraître tout à fait dupe du ton léger qu'on lui montrait. « Ce numéro de la quotidienne n'est peut-être pas fort amusant, mais si monsieur le marquis le permet, demain matin j'aurai l'honneur de le lui réciter tout entier. » « Quoi ? Même les annonces ? Fort exactement, et sans qu'il y manque un mot. M'en donnez-vous votre parole ? Reprit le marquis avec une gravité soudaine. Oui, monsieur, la crainte d'y manquer pourrait seule troubler ma mémoire. C'est que j'ai oublié de vous faire cette question hier. Je ne vous demande pas votre serment de ne jamais répéter ce que vous allez entendre. je vous connais trop pour vous faire cette injure. J'ai répondu de vous. Je vais vous mener dans un salon où se réuniront 12 personnes. Vous tiendrez note de ce que chacun dira. Ne soyez pas inquiet, ce ne sera point une conversation confuse. Chacun parlera à son tour. Je ne veux pas dire avec ordre, ajouta le marquis en reprenant l'air fin et léger qui lui était si naturel. Pendant que nous parlerons, vous écrirez une 20aine de pages. Vous reviendrez ici avec moi, nous réduirons ces 20 pages à 4. Ce sont ces 4 pages que vous me réciterez demain matin au lieu de tout le numéro de la quotidienne. Vous partirez aussitôt après. Il faudra courir la poste comme un jeune homme qui voyage pour ses plaisirs. Votre but sera de n'être remarqué de personne. Vous arriverez auprès d'un grand personnage. Là, il vous faudra plus d'adresse. Il s'agit de tromper tous ceux qui l'entourent. Car parmi ses secrétaires, parmi ses domestiques, il y a des gens vendus à nos ennemis et qui guettent nos agents au passage pour les intercepter. Vous aurez une lettre de recommandation insignifiante. Au moment où son Excellence vous regardera, vous tirerez ma montre que voici, que je vous prête pour le voyage. Prenez-la sur vous, c'est toujours autant de fait. Donnez-moi la vôtre. Le duc lui-même daignera écrire sous votre dictée les 4 pages que vous aurez apprises par cœur. Cela fait, mais non plus tôt, remarquez bien, vous pourrez, si son Excellence vous interroge, raconter la séance à laquelle vous allez assister. Ce qui vous empêchera de vous ennuyer le long du voyage, c'est qu'entre Paris et la résidence du ministre, il y a des gens qui ne demanderaient pas mieux que de tirer un coup de fusil à monsieur l'abbé Sorel. Alors, sa mission est finie et je vois un grand retard. Car, mon cher, comment saurons-nous votre mort? Votre zèle ne peut pas aller jusqu'à nous en faire part. Courez sur le champ acheter un habillement complet, reprit le marquis d'un air sérieux. Mettez-vous à la mode d'il y a 2 ans. Il faut ce soir que vous ayez l'air peu soigné. En voyage, au contraire, vous serez comme à l'ordinaire. Cela vous surprend? Votre méfiance devine? Oui, mon ami. Un des vénérables personnages que vous allez entendre opiner est fort capable d'envoyer des renseignements, au moyen desquels on pourra bien vous donner au moins de l'opium le soir dans quelque bonne auberge où vous aurez demandé à souper. Il vaut mieux, dit Julien, faire 30 lieues de plus et ne pas prendre la route directe. Il s'agit de Rome, je suppose. Le marquis prit un air de hauteur et de mécontentement que Julien ne lui avait pas vu à ce point depuis Bray-le-Haut. C'est ce que vous saurez, monsieur, quand je jugerai à propos de vous le dire. Je n'aime pas les questions.
Ceci n'en était pas une, reprit Julien avec effusion. « Je vous le jure, monsieur, je pensais tout haut. Je cherchais dans mon esprit la route la plus sûre. »
« Oui, il paraît que votre esprit était bien loin. N'oubliez jamais qu'un ambassadeur, et de votre âge encore, ne doit pas avoir l'air de forcer la confiance. »
Julien fut très mortifié. Il avait tort. Son amour-propre cherchait une excuse et ne la trouvait pas.
« Comprenez donc, ajouta monsieur de la Mole, que toujours on en appelle à son cœur quand on a fait quelques sottises. »
Une heure après, Julien était dans l'antichambre du marquis avec une tournure subalterne, des habits antiques, une cravate d'un blanc douteux et quelque chose de cuistre dans toute l'apparence. En le voyant, le marquis éclata de rire. Et alors seulement, la justification de Julien fut complète.
« Si ce jeune homme me trahit, se disait monsieur de la Mole, à qui se fier? Et cependant, quand on agit, il faut se fier à quelqu'un. Mon fils et ses brillants amis de même acabit ont du cœur, de la fidélité pour 100 000. S'il fallait se battre, ils périraient sur les marches du trône. Ils savent tout. Excepté ce dont on a besoin dans le moment. Du diable, si je vois un d'entre eux qui puisse apprendre par cœur 4 pages et faire 100 lieues sans être dépisté. Norbert saurait se faire tuer comme ses aïeux. C'est aussi le mérite d'un conscrit. »
Le marquis tomba dans une rêverie profonde.
« Et encore se faire tuer ? » dit-il avec un soupir. « Peut-être ce Sorel le saurait-il aussi bien que lui ?»«
Montons en voiture, » dit le marquis, comme pour chasser une idée importune.
« Monsieur, » dit Julien, « pendant qu'on m'arrangeait cet habit, j'ai appris par cœur la première page de la quotidienne d'aujourd'hui. »
Le marquis prit le journal. Julien récita sans se tromper d'un seul mot.
« Bon, » dit le marquis, fort diplomate ce soir-là. « Pendant ce temps, ce jeune homme ne remarque pas les rues par lesquelles nous passons. »
Ils arrivèrent dans un grand salon d'assez triste apparence, en partie boisé et en partie tendu de velours vert. Au milieu du salon, un laquais renfrogné achevait d'établir une grande table à manger, qu'il changea plus tard en table de travail, au moyen d'un immense tapis vert, tout taché d'encre, dépouille de quelques ministères. Le maître de la maison était un homme énorme, dont le nom ne fut point prononcé. Julien lui trouva la physionomie et l'éloquence d'un homme qui digère. Sur un signe du marquis, Julien était resté au bas bout de la table. Pour se donner une contenance, il se mit à tailler des plumes. Il compta du coin de l'œil 7 interlocuteurs, mais Julien ne les apercevait que par le dos. 2 lui parurent adresser la parole à M. de La Mole sur le ton de l'égalité. Les autres semblaient plus ou moins respectueux. Un nouveau personnage entra sans être annoncé.
« Ceci est singulier, » pensa Julien. « On n'annonce point dans ce salon. Est-ce que cette précaution serait prise en mon honneur ?»
Tout le monde se leva pour recevoir le nouveau venu. Il portait la même décoration extrêmement distinguée que 3 autres des personnes qui étaient déjà dans le salon. On parlait assez bas. Pour juger le nouveau venu, Julien en fut réduit à ce que pouvaient lui apprendre ses traits et sa tournure. Il était court et épais, haut en couleur, l'œil brillant et sans expression autre qu'une méchanceté de sanglier. L'attention de Julien fut vivement distraite par l'arrivée presque immédiate d'un être tout différent. C'était un grand homme, très maigre, et qui portait 3 ou 4 gilets. Son œil était caressant, son geste poli.
« C'est toute la physionomie du vieil évêque de Besançon, » pensa Julien. Cet homme appartenait évidemment à l'Église. Il n'annonçait pas plus de 50 à 55 ans. On ne pouvait pas avoir l'air plus paterne.
Le jeune évêque d'Agde parut. Il eut l'air fort étonné quand, faisant la revue des présents, ses yeux arrivèrent à Julien. Il ne lui avait pas adressé la parole depuis la cérémonie de Bray-le-Haut. Son regard surpris embarrassa et irrita Julien. « Quoi donc ? » se disait celui-ci. « Connaître un homme me tournera-t-il toujours un malheur ? Tous ces grands seigneurs que je n'ai jamais vus ne m'intimident nullement, et le regard de ce jeune évêque me glace. Il faut convenir que je suis un être bien singulier et bien malheureux. »
Un petit homme extrêmement noir entra bientôt avec fracas et se mit à parler dès la porte. Il avait le teint jaune et l'air un peu fou. Dès l'arrivée de ce parleur impitoyable, des groupes se formèrent, apparemment pour éviter l'ennui de l'écouter. En s'éloignant de la cheminée, on se rapprochait du bas bout de la table occupée par Julien. Sa contenance devenait de plus en plus embarrassée, car enfin, quelque effort qu'il fît, il ne pouvait pas ne pas entendre, et quelque peu d'expérience qu'il eût, il comprenait toute l'importance des choses dont on parlait sans aucun déguisement. Et combien les hauts personnages qu'il avait apparemment sous les yeux devaient tenir à ce qu'elles restassent secrètes. Déjà, le plus lentement possible, Julien avait taillé 20aine de plumes. Cette ressource allait lui manquer. Il cherchait en vain un ordre dans les yeux de M. de La Mole. Le marquis l'avait oublié.
« Ce que je fais est ridicule !» se disait Julien en taillant ses plumes. Mais des gens à physionomie aussi médiocre et chargés par d'autres ou par eux-mêmes d'aussi grands intérêts doivent être fort susceptibles. Mon malheureux regard a quelque chose d'interrogatif et de peu respectueux qui sans doute les piquerait. Si je baisse décidément les yeux, j'aurai l'air de faire collection de leurs paroles. » Son embarras était extrême. Il entendait de singulières choses. Chapitre 52. La discussion. La République. Pour un, aujourd'hui, qui sacrifierait tout au bien public, il en est des milliers et des millions qui ne connaissent que leur jouissance, leur vanité. On est considéré à Paris à cause de sa voiture et non à cause de sa vertu. Napoléon, Mémorial. Le laquais entra précipitamment en disant « Monsieur le duc de... »
« Taisez-vous, vous n'êtes qu'un sot !»
dit le duc en entrant. Il dit si bien ce mot et avec tant de majesté que malgré lui, Julien pensa que savoir se fâcher contre un laquais était toute la science de ce grand personnage. Julien leva les yeux et les baissa aussitôt. Il avait si bien deviné la portée du nouvel arrivant qu'il trembla que son regard ne fût une indiscrétion. Ce duc était un homme de 50 ans, mis comme un dandy et marchant par ressort. Il avait la tête étroite, avec un grand nez et un visage busqué et tout en avant. Il eût été difficile d'avoir l'air plus noble et plus insignifiant. Son arrivée détermina l'ouverture de la séance. Julien fut vivement interrompu dans ses observations physiognomoniques par la voix de M. de La Mole. « Je vous présente M. l'abbé Sorel, » disait le marquis. « Il est doué d'une mémoire étonnante. Il n'y a qu'une heure que je lui ai parlé de la mission dont il pouvait être honoré, et afin de donner une preuve de sa mémoire, il a appris par cœur la première page de la quotidienne. « Ah ! Les nouvelles étrangères de ce pauvre N !» dit le maître de la maison. Il prit le journal avec empressement, et regardant Julien d'un air plaisant, à force de chercher à être important, « Parlez, monsieur !» lui dit-il. Le silence était profond, tous les yeux fixés sur Julien. Il récita si bien qu'au bout de 20 lignes, « Il suffit !» dit le duc. Le petit homme au regard de sanglier s'assit. Il était le président, car à peine en place, il montra à Julien une table de jeu et lui fit signe de la porter auprès de lui. Julien s'y établit avec ce qu'il faut pour écrire. Il compta 12 personnes assises autour du tapis vert. « Monsieur Sorel, » dit le duc, « retirez-vous dans la pièce voisine, on vous fera appeler. » Le maître de la maison prit l'air fort inquiet. « Les volets ne sont pas fermés, » dit-il à demi-bas à son voisin. « Il est inutile de regarder par la fenêtre !» cria-t-il sottement à Julien. « Me voici fourré dans une conspiration, tout au moins !» pensa celui-ci. « Heureusement, elle n'est pas de celles qui conduisent en place de grève. Quand il y aurait du danger, je dois cela et plus encore au marquis. Heureux s'il m'était donné de réparer tout le chagrin que mes folies peuvent lui causer un jour !» Tout en pensant à ses folies et à son malheur, il regardait les lieux de façon à ne jamais les oublier. Il se souvint alors seulement qu'il n'avait point entendu le marquis dire au laquais le nom de la rue, et le marquis avait fait prendre un fiacre, ce qui ne lui arrivait jamais. Longtemps, Julien fut laissé à ses réflexions. Il était dans un salon tendu en velours rouge avec de larges galons d'or. Il y avait sur la console un grand crucifix en ivoire et sur la cheminée le livre du pape, de Monsieur de Maître, doré sur tranche et magnifiquement relié. Julien l'ouvrit pour ne pas avoir l'air d'écouter. De moment en moment, on parlait très haut dans la pièce voisine. Enfin, la porte s'ouvrit, on l'appela. « Songez, messieurs, » disait le président, « que de ce moment... « Nous parlons devant le duc de... »« Monsieur, » dit-il en montrant Julien, « est un jeune lévite, dévoué à notre sainte cause, et qui redira facilement, à l'aide de sa mémoire étonnante, jusqu'à nos moindres discours. « La parole est à monsieur », dit-il en indiquant le personnage à l'air paterne et qui portait 3 ou 4 gilets. Julien trouva qu'il eût été plus naturel de nommer le monsieur au gilet. Il prit du papier et écrivit beaucoup. Ici, l'auteur eût voulu placer une page de points. « Cela aura mauvaise grâce, » dit l'éditeur, « et pour un écrit aussi frivole, manquer de grâce, c'est mourir. » « La politique, » reprend l'auteur, « est une pierre attachée au cou de la littérature et qui, en moins de 6 mois, la submerge. La politique au milieu des intérêts d'imagination, c'est un coup de pistolet au milieu d'un concert. Ce bruit est déchirant sans être énergique. Il ne s'accorde avec le son d'aucun instrument. Cette politique va offenser mortellement une moitié des lecteurs et ennuyer l'autre, qu'il a trouvé bien autrement spécial et énergique dans le journal du matin. Si vos personnages ne parlent pas politique, reprend l'éditeur, ce ne sont plus des Français de 1830, et votre livre n'est plus un miroir, comme vous en avez la prétention. Le procès-verbal de Julien avait 26 pages. Voici un extrait bien pâle, car il a fallu, comme toujours, supprimer les ridicules dont l'excès eût semblé odieux ou peu vraisemblable. Voir la Gazette des tribunaux. L'homme au gilet et à l'air paterne, c'était un évêque peut-être, souriait souvent, et alors ses yeux, entourés de paupières flottantes, prenaient un brillant singulier et une expression moins indécise que de coutume. Ce personnage, que l'on faisait parler le premier devant le duc, « Mais quel duc !» se disait Julien. Apparemment pour exposer les opinions et faire les fonctions d'avocat général, parut à Julien tomber dans l'incertitude et l'absence de conclusion décidée que l'on reproche souvent à ses magistrats. Dans le courant de la discussion, le duc alla même jusqu'à le lui reprocher. Après plusieurs phrases de morale et d'indulgente philosophie, l'homme au gilet dit « La noble Angleterre, guidée par un grand homme, l'immortel Pitt, a dépensé 40 milliards de francs pour contrarier la Révolution. Si cette assemblée me permet d'aborder avec quelque franchise une idée triste, l'Angleterre ne comprit pas assez qu'avec un homme tel que Bonaparte, quand surtout on n'avait à lui opposer qu'une collection de bonnes intentions, il n'y avait de décisif que les moyens personnels. « Ah, encore l'éloge de l'assassinat !» dit le maître de la maison d'un air inquiet. « Faites-nous grâce de vos homélies sentimentales !» s'écria avec humeur le président. Son œil de sanglier brilla d'un éclat féroce. « Continuez !» dit-il à l'homme au gilet. Les joues et le front du président devinrent pourpres. « La noble Angleterre, reprit le rapporteur, est écrasée aujourd'hui, car chaque Anglais, avant de payer son pain, est obligé de payer l'intérêt des 40 milliards de francs qui furent employés contre les Jacobins. Elle n'a plus de Pitt. « Elle a le duc de Wellington, dit un personnage militaire qui prit l'air fort important. « De grâce, silence, messieurs !» s'écria le président. « Si nous disputons encore, il aura été inutile de faire entrer M. Sorel. »« On sait que monsieur a beaucoup d'idées, » dit le duc d'un air piqué en regardant l'interrupteur, ancien général de Napoléon. Julien vit que ce mot faisait allusion à quelque chose de personnel et de fort offensant. Tout le monde sourit. Le général transfuge parut outré de colère. « Il n'y a plus de Pitt, messieurs !» reprit le rapporteur de l'air découragé d'un homme qui désespère de faire entendre raison à ceux qui l'écoutent. « Y eut-il un nouveau Pitt en Angleterre, on ne mystifie pas 2 fois une nation par les mêmes moyens. Et c'est pourquoi un général vainqueur, un Bonaparte, est désormais impossible en France !» s'écria l'interrupteur militaire. pour cette fois, ni le président ni le duc n'osèrent se fâcher, quoique Julien crût lire dans leurs yeux qu'ils en avaient bonne envie. Ils baissèrent les yeux, et le duc se contenta de soupirer, de façon à être entendu de tous. Mais le rapporteur avait pris de l'humeur. « On est pressé de me voir finir, » dit-il avec feu, et en laissant tout à fait de côté cette politesse souriante et ce langage plein de mesure que Julien croyait l'expression de son caractère. « On est pressé de me voir finir. On ne me tient nul compte des efforts que je fais pour n'offenser les oreilles de personne, de quelque longueur qu'elles puissent être. Eh bien, messieurs, je serai bref. Et je vous dirai, en paroles bien vulgaires, l'Angleterre n'a plus un sou au service de la bonne cause. Pitt lui-même reviendrait qu'avec tout son génie, il ne parviendrait pas à mystifier les petits propriétaires anglais. Car ils savent que la brève campagne de Waterloo leur a coûté à elle seule 1 milliard de francs. Puisque l'on veut des phrases nettes, ajouta le rapporteur en s'animant de plus en plus, je vous dirai, aidez-vous vous-même. Car l'Angleterre n'a pas une guinée à votre service. Et quand l'Angleterre ne paie pas, l'Autriche, la Russie, la Prusse, qui n'ont que du courage et pas d'argent, ne peuvent faire contre la France plus d'une campagne ou deux. L'on peut espérer que les jeunes soldats rassemblés par le jacobinisme seront battus à la première campagne, à la seconde peut-être, mais à la troisième, dussé-je passer pour un révolutionnaire à vos yeux prévenus, à la troisième, vous aurez les soldats de 1794, qui n'étaient plus les paysans enrégimentés de 1792. Ici, l'interruption partit de 3 ou 4 points à la fois. « Monsieur, dit le président à Julien, allez mettre au net dans la pièce voisine le commencement de procès-verbal que vous avez écrit. » Julien sortit à son grand regret. Le rapporteur venait d'aborder des probabilités qui faisaient le sujet de ses méditations habituelles. « Ils ont peur que je me moque d'eux, » pensa-t-il. Quand on le rappela, M. de la Mole disait, avec un sérieux qui, pour Julien qui le connaissait, semblait bien plaisant. « Oui, messieurs, c'est surtout de ce malheureux peuple qu'on peut dire « Sera-t-il Dieu, table ?» ou cuvette. Il sera Dieu, s'écrie le fabuliste. C'est à vous, messieurs, que semble appartenir ce mot si noble et si profond. Agissez par vous-même, et la noble France reparaîtra telle à peu près que nos aïeux l'avaient faite, et que nos regards l'ont encore vue avant la mort de Louis XVI. L'Angleterre, ses nobles lords, du moins, exècrent autant que nous l'ignoble jacobinisme. Sans l'or anglais, l'Autriche, la Russie, la Prusse ne peuvent livrer que 2 ou 3 batailles. Cela suffira-t-il pour amener une heureuse occupation, comme celle que M. de Richelieu gaspilla si bêtement en 1817 ? Je ne le crois pas. Ici, il y eut interruption, mais étouffée par les « chut » de tout le monde. Elle parlait encore de l'ancien général impérial qui désirait le cordon bleu, et voulait marquer parmi les rédacteurs de la note secrète. « Je ne le crois pas, » reprit M. de la Mole après le tumulte. Il insista sur le « je » avec une insolence qui charma Julien. « Voilà du bien joué !» se disait-il tout en faisant voler sa plume presque aussi vite que la parole du marquis. Avec un mot bien dit, M. de la Mole anéantit les 20 campagnes de ce transfuge. « Ce n'est pas à l'étranger tout seul, » continua le marquis du ton le plus mesuré, « que nous pouvons devoir une nouvelle occupation militaire. Toute cette jeunesse qui fait des articles incendiaires dans le globe vous donnera 3 ou 4 000 jeunes capitaines, parmi lesquels peut se trouver un Kléber, un Hoche, un Jourdan, un Pichegru, mais moins bien intentionné. » « Nous n'avons pas su lui faire de la gloire, » dit le président. « Il fallait le maintenir immortel. » « Il faut enfin qu'il y ait en France 2 partis, » reprit M. de la Mole. « Mais 2 partis, non pas seulement de nom,
de parties bien nettes, bien tranchées. Sachons qui il faut écraser. D'un côté, les journalistes, les électeurs, l'opinion. En un mot, la jeunesse et tout ce qui l'admire. Pendant qu'elle s'étourdit du bruit de ses vaines paroles, nous, nous avons l'avantage certain de consommer le budget. Ici encore, interruption. « Vous, monsieur, » dit monsieur de Lamolle à l'interrupteur avec une hauteur et une aisance admirables, « vous ne consommez pas, si le mot vous choque, vous dévorez 40 000 francs portés au budget de l'État et 80 000 que vous recevez de la liste civile. Eh bien, monsieur, puisque vous m'y forcez, je vous prends hardiment pour exemple. » Comme vos nobles aïeux qui suivirent Saint-Louis à la croisade, vous devriez, pour ces 120 000 francs, nous montrer au moins un régiment, une compagnie, que dis-je, une demi-compagnie, ne fût-elle que de 50 hommes prêts à combattre et dévoués à la bonne cause, à la vie et à la mort. Vous n'avez que des laquais, qui, en cas de révolte, vous feraient peur à vous-même. Le trône, l'autel, la noblesse peuvent périr demain, messieurs, tant que vous n'aurez pas créé dans chaque département une force de 500 hommes dévoués. Mais je dis dévoués, non seulement avec toute la bravoure française, mais aussi avec la constance espagnole. La moitié de cette troupe devra se composer de nos enfants, de nos neveux, de vrais gentilshommes, enfin. Chacun d'eux aura à ses côtés, non pas un petit bourgeois bavard, prêt à arborer la cocarde tricolore si 1815 se présente de nouveau, mais un bon paysan, simple et franc, comme Catellino. Notre gentilhomme l'aura endoctriné, ce sera son frère de lait s'il se peut. Que chacun de nous sacrifie le 1/5 de son revenu pour former cette petite troupe dévouée de 500 hommes par département. Alors, vous pourrez compter sur une occupation étrangère. Jamais le soldat étranger ne pénétrera jusqu'à Dijon seulement, s'il n'est sûr de trouver 500 soldats amis dans chaque département. Les rois étrangers ne vous écouteront que quand vous leur annoncerez 20 000 gentilshommes, prêts à saisir les armes pour leur ouvrir les portes de la France. Ce service est pénible, direz-vous. Messieurs, notre tête est à ce prix. Entre la liberté de la presse et notre existence comme gentilshommes, il y a guerre à mort. Devenez des manufacturiers, des paysans, ou prenez votre fusil. Soyez timide si vous voulez, mais ne soyez pas stupide. Ouvrez les yeux. Formez vos bataillons, vous dirai-je avec la chanson des Jacobins. Alors il se trouvera quelque noble Gustave Adolphe qui, touché du péril imminent du principe monarchique, s'élancera à 300 lieues de son pays et fera pour vous ce que Gustave fit pour les princes protestants. Voulez-vous continuer à parler sans agir? Dans 50 ans, il n'y aura plus en Europe que des présidents de république et pas un roi. Et avec ces 3 lettres R, O, I, s'en vont les prêtres et les gentilshommes. Je ne vois plus que des candidats faisant la cour à des majorités crottées. Vous avez beau dire que la France n'a pas en ce moment un général accrédité, connu et aimé de tous, que l'armée n'est organisée que dans l'intérêt du trône et de l'autel, qu'on lui a ôté tous les vieux troupiers, tandis que chacun des régiments prussiens et autrichiens compte 50 sous-officiers qui ont vu le feu. 200 000 jeunes gens appartenant à la petite bourgeoisie sont amoureux de la guerre. Trêve de vérité désagréable, dit d'un ton suffisant un grave personnage, apparemment fort avant dans les dignités ecclésiastiques, car M. de Lamolle sourit agréablement au lieu de se fâcher, ce qui fut un grand signe pour Julien. Trêve de vérité désagréable. Résumons-nous, messieurs. L'homme à qui il est question de couper une jambe gangrénée serait malvenu de dire à son chirurgien « Cette jambe malade est fort saine ». Passez-moi l'expression, messieurs. Le noble duc de est notre chirurgien.
« Voilà enfin le grand mot prononcé, » pensa Julien. « C'est vers le que je galoperai cette nuit. »